Voilà, nous allons pouvoir commencer alors, il est 10h, et je veux saluer tout le monde au nom du Seigneur Jésus. Alors, j'espère que tout le monde m'entend maintenant, et j'espère que votre semaine aussi s'est très bien déroulée. En tout cas, pour moi, ça a été grâce à Dieu. Nous allons pouvoir nous lever dans la prière. Merci Seigneur pour ce que tu a pris soin de nous, Seigneur, durant toute cette semaine, Seigneur. Malgré les hauts et les bas, éternel Dieu, tu as été à nos côtés. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui te soucie de nous au quotidien, éternel Dieu. Tu prends soin de nous. Et en ce jour, Seigneur, ce jour qui t'est dédié, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remercier pour tes bienfaits. De ce que, Seigneur, tu nous préserves chaque jour nos vies, Seigneur, notre vie. De ce Seigneur que chaque jour tu prends soin de manière exceptionnelle de nous, éternel Dieu. Alors reçois, Seigneur, toute notre reconnaissance. Et je te prie pour tous les frères et sœurs, amis visiteurs, Seigneur, tous ceux qui vont se connecter, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, les enrichir et qu'ils puissent venir aussi, Seigneur, avec un esprit de reconnaissance parce que tu es l'Éternel, parce que tu es leur Dieu parce que tu es celui qui les a sauvés. Que tu puisses faire naître en chacun de nous, Seigneur, un cœur vraiment d'adorateur aussi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, disposé, Seigneur, à élever et honorer le Dieu grand et merveilleux que tu es. Merci encore de nous diriger, de diriger ce culte, éternel Dieu, que nous t'offrons, Seigneur, et que tu puisses vraiment agréer, Seigneur, le fruit de nos lèvres. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Viens ranimer notre flamme, viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Répands sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Viens ranimer notre flamme, viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Répands sur nous, répand sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous.
Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna à s'exprimer. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? » Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix, on leur parla en ces termes. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je veux croire que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire encore comme il a fait ce jour-là. Alors Seigneur, nous te demandons vraiment de nous animer de ton esprit, Seigneur, et que nous puissions voir des prodiges, Seigneur, apparaître, Seigneur, dans nos vies, éternel Dieu. Que vraiment par l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses aussi accorder la délivrance à ceux qui ont besoin de délivrance. Que tu puisses accorder la paix à ceux qui ont besoin de paix. Que tu puisses donner ton amour, de l'amour à tous ceux qui ont besoin d'amour, éternel Dieu. Parce que tu es le Dieu grand et glorieux. Et quiconque invoque, Seigneur, ton nom, Seigneur, le prophète Joël l'a dit, quiconque invoque ton nom, Seigneur, il sera sauvé. Et nous le croyons. Alors réponds encore, Seigneur, ton Esprit Saint. Viens ranimer encore notre flamme. Si toutefois, Seigneur, nous avons eu des doutes, Seigneur, sur ta puissance, sur ta capacité à agir dans nos vies, Seigneur. Que ces doutes disparaissent, Seigneur.
Répands sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains. Répands sur nous ton Esprit Saint.
Que l'Église chante.
Façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, viens ranimer notre flamme. Viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Répands sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous. entre tes mains.
Alléluia. Oh Seigneur, ce temps t'est vraiment consacré, éternel Dieu. Nous savons que Seigneur, tu es notre grand Dieu. Tu es celui qui n'a pas hésité, Seigneur, à descendre du haut du ciel, éternel Dieu, et revêtir ce corps soumis, Seigneur, à la tentation, soumis au péché. Et tu es venu en la personne de Jésus. Jésus qui est toi, parce que vous ne faites qu'un. Et Jésus était sans péché, nous a montré comment vivre une vie proche de toi. Et Jésus nous a sauvés, Seigneur, avec puissance. Il nous a sauvés, Seigneur, par l'action aussi de son amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque nous sommes en toi, nous avons, en plus de cette vie en abondance que nous avons une vie aussi éternelle, une vie éternelle auprès de toi, dans ton royaume. Et je sais, Seigneur, que tu es venu, Seigneur, et nous le savons que tu es venu nous aimer, nous montrer que tu nous aimais, et tu es venu pour nous sauver. Alors que tu puisses remplir de tout un chacun, tous ceux qui sont présents, Seigneur, qui assistent à ce culte, que tu puisses encore leur révéler, Seigneur, que tu puisses encore nous révéler encore ton amour, Seigneur.
Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Et il resplendit. Resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'est toi, Jésus, qui a vaincu la mort, qui nous a aimés et sauvés. Roi serviteur, roi sauveur, prince de paix, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à toi, sois rendu, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu aussi bon que notre Dieu? En lui, nous pouvons nous confier, en lui, nous pouvons vraiment déposer tous nos fardeaux. Il est merveilleux. Et je trouve que on ne passe pas assez de temps à louer son Saint-Nom. On ne passe pas assez de temps à le chanter pour tout simplement lui exprimer notre reconnaissance. Et je voudrais vraiment que tout un chacun aujourd'hui puisse s'exercer tout simplement à chanter et louer le nom merveilleux de notre Seigneur. Parce qu'il est celui qui a le nom le plus élevé. Chantons louange à son nom. Louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, Jésus, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Jésus, sois élevé, élevé plus haut, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Pour ton amour, sois élevé. Pour ta paix, élevé plus haut. Pour la joie que tu donnes, sois élevé, élevé plus haut. Élevé plus haut.
Là où vous êtes, vous pouvez élever la voix vers le Seigneur, vers Dieu. N'hésitez pas à faire monter votre voix vers votre Seigneur, car il a le nom au-dessus de tout nom. Voilà, merci. En ce moment, nous rencontrons quelques petits soucis de son. Alors, si vous entendez pas bien, si vous peut-être m'entendez pas bien, c'est vrai que moi, même moi, à l'église, j'ai du mal à entendre en fait les prières. Mais Dieu est là. C'est vrai que nous, il y a des situations en fait qui sont un peu compliquées, mais Dieu est présent et mais rien ne va faire tarir en fait notre louange. Et ce matin, j'avais comme objectif au niveau de cette louange de pouvoir permettre à tout un chacun de comprendre combien Dieu les aimait et combien en fait il était prêt en fait à vous accueillir lorsque vous avez besoin de lui. Et je voudrais lire avec vous aussi ce psaume. Alors si vous avez vos Bibles,
Je vous demande d'ouvrir au psaume 46.
Et à partir du verset 2, il est dit
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur de la mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez alors contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous pouvons dire Amen. Nous n'avons rien à craindre parce que notre Seigneur est pour nous une haute retraite. Nous n'avons rien à craindre parce que notre Seigneur des armées est avec nous. Et le verset Dieu nous dit que Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, c'est son amour qui nous a secourus, son amour qui nous a sauvés. Alors, ayez foi, ayez confiance en l'amour de Dieu. Notre Seigneur est celui qui, David le disait, « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. » Et même avant que nous puissions être dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Il nous aimait déjà. Alors nous pouvons le louer pour cela. Parce que s'il nous connaissait déjà, même avant que nous ayons vu le jour, il connaissait aussi, il connaît déjà par avance les moindres situations que nous pouvons traverser. Mais son amour est capable, et son amour a déjà été capable de nous sauver, et il le fera encore. Seigneur, merci pour ton amour. Ton amour nous a cherchés, nous a trouvés, éternel Dieu, alors que nous étions perdus. Et nous avons l'exemple, Seigneur Dieu, de comment tu nous aimes. Lorsque nous réalisons l'histoire de ses frères et sœurs, Marthe, Marie et Lazare, alors que Lazare se trouvait était face à la mort, on demanda d'aller chercher Jésus pour qu'il puisse le sauver. Mais le temps que Jésus arrive, Lazare était mort. Et Jésus, à la mort de Lazare, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Il a pleuré. Son amour n'est pas resté seulement inefficace, mais il a demandé d'ouvrir le tombeau et il a appelé Lazare. Et Lazare fut réveillé de la mort. De même comme Jésus a été capable d'aller chercher Lazare, même au seuil de la mort, il est capable aussi d'aller vous trouver dans les situations dont vous vous trouvez. Ayez confiance en son amour. C'est son amour qui a fait qu'il a sauvé Lazare. C'est son amour qui a fait qu'il est allé chercher Lazare. Tout comme le fait le bon berger. même s'il possède 100 brebis et que une est perdue, que les 99 sont sauvées, il va chercher celle qui est perdue parce qu'il l'aime, parce qu'elle est exceptionnelle aussi pour lui. Peut-être que tu te dis que avec la multitude là, de chrétiens qui existent au monde, pourquoi, et de personnes qui existent au monde, pourquoi Dieu t'aimerait toi? Pour une seule vie, même pour une seule vie, Jésus s'est donné. Il est le bon berger. Jésus nous connaît et te connaît par ton nom. Et il veut te sauver. Il veut que tu sois tout près de lui. Et que tu te réjouisses avec lui. Et que tu profites de ses bienfaits. Jésus te connaît et il t'aime. Jésus me connaît et il m'aime. Jésus nous connaît et il nous aime. Et c'est pour nous, pour un seul d'entre nous, qu'il s'est donné. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers son extravagant infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant infini de Dieu. Oh, je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers son extravagant infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant infini de Dieu. Oh, 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 oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Oh Jésus, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour envers son extravagant infini
de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 eh. Amour en versant, amour extravagant. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh.
Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur parce que rien ne peut, personne ne peut t'arrêter. Lorsque tu as prévu de faire quelque chose. Et nous savons que aucune force de ce monde ne peut t'empêcher d'agir, éternel Dieu. Lorsque tu as décidé, la chose, elle arrive. Alors Seigneur, donne-nous à te faire pleinement confiance, Seigneur. Donne-nous vraiment à t'offrir notre confiance. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ton amour. Et en ce matin, je veux aussi te présenter les enfants, Seigneur. Merci parce que ils ont besoin aussi d'être enseignés. La Bible nous dit « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. » Alors lorsqu'il deviendra
plus grand, il ne va point se détourner. Nous, nous voulons vraiment, Seigneur, leur donner cette occasion aussi de t'entendre, Seigneur, parce que tu as des choses à dire à ces enfants, éternel Dieu. Tu veux qu'ils deviennent des véritables serviteurs de ton nom. Alors vraiment, Seigneur, et nous voulons les instruire selon ta parole, parce que ta parole est la vérité. Alors merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui sera donnée, Seigneur, par la bouche de ta servante Nicole, et que cette parole puisse impacter aussi ses enfants, éternel Dieu, et que chacun puisse prendre, Seigneur, la décision aussi de devenir de véritables enfants de Dieu. Amen. Nicole, est-ce que tu es présente?
Je suis là.
Voilà. Merci, merci Nicole. Voilà, on a bien vu que la Bible est remplie de belles richesses, et ce psaume 139 nous montre effectivement pourquoi Jésus nous aime. Et nous, ça nous donne encore sujet à louer Dieu. Parfois, vous hésitez à savoir, mais je ne sais pas quoi dire quand je veux louer Dieu. Eh bien, vous allez chercher dans le psaume 139, hein, parce que vous avez de la valeur pour lui. Donc, je te loue, Seigneur, parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Et voilà, donc la Bible nous aide même à offrir nos louanges à notre Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, notre Seigneur, il est beau. Il est merveilleux. Et c'est encore une occasion pour nous encore d'adorer son Saint-Nom. En disant, Seigneur, tu es merveilleux et je veux t'adorer, tout simplement. Chantons ensemble, merveilleux Seigneur, nous t'adorons. Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, merveilleux Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, merveilleux Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Amen. Amen. Je vais inviter notre frère Teddy à venir jusqu'ici. Pour nous parler de ce que Dieu a mis dans son cœur. Pour nous.
Bonjour à tous. Je vais vous inviter à prier avant de commencer. Merci encore pour ta présence, ô Père, et merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour envers nous, manifesté en Jésus-Christ. Et encore ce matin, tu nous rappelles comment cet amour est vaste et comment cet amour n'a pas de limite. Nous sommes heureux de t'appartenir et nous sommes là encore ce matin, à tes pieds, faisant monter vers toi nos louanges, notre adoration, mais aussi, Seigneur, disposant nos cœurs à recevoir de toi. Alors je te prie, encore ce matin, que tu puisses nous édifier ensemble sur ta parole, et que cette parole qui est la vérité nous rende libres, et que cette parole aussi nous aide à marcher en conformité avec ta volonté. Bénis-nous en ce matin, et tu vois les problèmes techniques, mais nous te prions que toi qui es capable d'agir au-dessus de toutes ces choses, que tu puisses encore agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors le texte de ce matin, sur lequel nous allons méditer un peu, se situe en Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Je vous laisse le temps de voir chercher sur vos Bibles, si elle est proche de vous. Et ce matin, nous allons essayer de voir comment Dieu exécute ce plan merveilleux qu'il a pour l'Église. Comment il met ce plan en marche. Donc, depuis quelques semaines, au sein de l'Assemblée de Créteil, nous travaillons à mieux comprendre notre vocation d'Église. Qu'est-ce que l'Église de Créteil voulait dire? On a étudié les chapitres précédents de l'Épître aux Éphésiens. Et nous avons eu quelques vérités entre le dimanche de prédication et aussi le mardi. Nous avons pu relever quelques vérités concernant l'identité et la fonction du peuple de Dieu. Et parmi ces vérités, nous avons vu que l'œuvre de la croix a fait tomber le mur de séparation, le mur de l'inimitié qui nous séparait. Nous avons également vu que les païens peuvent désormais faire partie du peuple de Dieu. Et ensemble, l'ensemble des croyants, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Nous avons également vu, dans tous ces chapitres précédents, 1 et 2, que l'Église, et aussi au chapitre 3, le début du chapitre 3, que l'Église a pour vocation de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et nous avons eu cette application avec le pasteur en remplaçant l'Église par l'Église de Créteil, en particulier à cette vocation de faire connaître autour d'elle la vocation infinie variée de Dieu. Et mardi, aussi en étude avec le pasteur, nous avons vu en 1 Timothée, le chapitre 3, que l'Église, et là c'est par extension que l'Église est la colonne de la vérité. Alors je vous invite à faire cette lecture. Là, nous allons lire les versets qui constituent au fait la seconde prière de l'apôtre Paul dans cette épître. Verset 14. C'est pourquoi je mets le genou devant le Père, de qui dépendent comme de modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 20. À celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Dans sa première prière, l'apôtre demandait à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs. C'est-à-dire que nous soyons rendus capables de comprendre et d'avoir une vision juste de l'espérance et de l'héritage que nous avons en Christ. Et là, dans cette seconde prière, il est question de, il est toujours aussi que des croyants aient une vision juste de tout le plan de Dieu. Mais un accent mis particulièrement sur les fruits et sur les conséquences que doivent engendrer ces révélations. Il ne faut pas que ces révélations restent juste au niveau de la tête, mais il faut qu'elles soient, qu'elles descendent dans le cœur afin qu'elles deviennent une pratique. Parce qu'en effet, connaître les vérités bibliques est capital dans la vie du croyant, mais une connaissance sans pratique est vaine. Donc il est indispensable pour le disciple que son vécu soit comme un écho, soit en résonance avec sa connaissance, la connaissance qu'il a du Christ. Ainsi, puisqu'il est question de l'unité, dans le texte, puisqu'il est aussi question de l'unité, l'unicité du peuple de Dieu, nous essaierons de comprendre la mise en œuvre de ce plan divin au sein de ce nouveau. Voilà, vous entendez maintenant? Donc, nous disions que dans cette seconde prière de l'apôtre, il est question pour les croyants qu'ils aient une vision juste du plan de Dieu. Mais un accent est mis sur les fruits et sur les conséquences que doivent engendrer ces grandes révélations dans leur vie. Il est indispensable, nous avons dit, que pour les disciples, que la vie soit en conformité avec la connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu. Le disciple doit refléter ce qu'il connaît de Christ. Dans ce texte, puisqu'il est question de l'unité aussi du peuple de Dieu, l'unicité de ce peuple, nous essaierons là de comprendre la mise en œuvre de son plan divin au sein de ce peuple. Nous allons voir comment Dieu, comment le Père travaille à ce que le peuple, son peuple, soit uni. Alors même que des clivages existent entre les peuples, nous voulons voir comment Dieu rend-il des hommes et des femmes de tout horizon capables d'annoncer au monde, visible et invisible, son infinie sagesse. Le verset 16 nous dit que je lui demande qu'il vous accorde à mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné solidement, fondé dans l'amour. Dieu met ce plan d'unité dans l'Église déjà par l'action de son esprit. Ici, nous voyons dans ces versets le rôle important que joue le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui a pour rôle d'appliquer les glorieuses richesses qui sont en Christ dans la vie du croyant. En effet, c'est par l'Esprit de Dieu que l'homme adamique, qui naît de nouveau, c'est par lui que l'œuvre de rédemption accomplie à la croix par Christ est appliquée aussi dans la vie de celui qui croit. C'est par l'Esprit de Dieu en nous que nous intégrons cette grande famille de Dieu. Donc, nous pouvons dire que c'est lui qui nous fait naître à cette nouvelle vie, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui nous fait croître vers la stature parfaite de Jésus-Christ. L'Esprit de vérité qui illumine les croyants concernant l'œuvre de Dieu en Christ est le même qui œuvre afin que le nouvel homme devienne un homme solidement fondé sur la personne de Jésus-Christ. L'expression « homme intérieur » renvoie à la notion du cœur de l'individu. Nous avons déjà vu par avant que ce terme renvoie à tout ce qui est au centre de l'intelligence. C'est à ce lieu que se prennent les décisions profondes de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui oriente ses choix. Pour l'homme intérieur, le croyant, cet être intérieur, désormais, est tourné vers Dieu, vers la volonté de Dieu. Mais cependant, ce verset nous révèle que cet homme intérieur, comme tout être qui naît, a besoin aussi de grandir. Voyons un enfant, un enfant est un homme en devenir. Cependant, avant qu'il devienne un homme ou une femme mature, cet enfant devra passer par différentes étapes. Et ces étapes, ces expériences de la vie ne sont pas forcément toutes agréables. Et parfois, de ces situations désagréables qu'il va rencontrer, ces situations vont le conduire à la maturité, vont faire de lui un homme et une femme responsables. Donc l'esprit, comment il s'y prend? Donc le texte nous dit que, afin de nous rendre matures, afin de nous fortifier, afin de nous rendre solides, le Christ, il fait habiter, c'est lui qui fait habiter Christ dans nos cœurs par la foi, en sorte que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Nous allons, ce terme-là, nous allons le laisser pour mardi prochain. Ce mardi, nous allons revenir sur ce texte afin d'aller plus en profondeur sur tout ce que ça veut dire que le Christ habite dans nos cœurs. Mais en tout cas, nous sommes là présentement, nous sommes devenus le lieu d'habitation de Christ. Et plus nous nous enracinons dans l'amour, et plus la base de cette action prend source dans l'amour, et plus le Christ se trouve à la place dans cette nouvelle habitation. Cet ancrage et le fondement de cet amour soulignent, en d'autres termes, la progression, la croissance du disciple, comme nous l'avons dit, vers la croissance, vers la stature parfaite de Christ. Donc nous pouvons dire que plus le Christ tient le premier plan dans nos vies, et plus nous progressons dans l'amour. Cet amour divin qui est le seul vrai capable de rapprocher les hommes. Même si son expression, l'expression de cet amour vécu est imparfaite encore dans nos assemblées, c'est vrai. Mais Christ, rappelons-le, a fait tomber le mur de l'inimitié entre les hommes. Mais tout cela nous montre encore que nous avons à progresser. Cela veut dire encore que nous n'avons pas tout saisi, tout compris, mais que nous sommes en marche, nous sommes dans cette progression. Et dans cette progression, dans cette compréhension, c'est aussi le plan de Dieu, que nous puissions comprendre les dimensions de l'amour manifesté en Christ. Dieu met son plan d'unifier son Église, son peuple, par la compréhension des dimensions de l'amour de Christ. Le verset 18 nous dit: « Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long et élevé et profond. » L'action du Saint-Esprit qui fait devenir le croyant l'habitation de Christ par la foi, elle a pour cette finalité de rendre le croyant capable, avec l'ensemble des rachetés, de le rendre capable de comprendre les dimensions de l'amour de Christ. La compréhension de cette œuvre, de ce plan, de cet amour est capitale pour que le peuple de Dieu lui-même soit uni. L'apôtre va souligner quelque part, quelque sorte, deux facettes indissociables de cet amour. La première facette, c'est que l'amour ne se vit pas de manière individuelle. On ne peut pas aimer en étant isolé. L'amour se vit en communauté. Et cet amour nous appelle à vivre au sein de cette assemblée de rachetés. Et une des expressions de cet amour, on le retrouve dans l'Église locale. On parle de l'Église, mais l'expression de ce grand peuple, c'est l'Église locale. Nous ne pouvons pas vivre l'amour en étant des chrétiens isolés, seuls, rester chez soi et se dire que nous faisons partie du peuple de Dieu. Cet amour se vit au sein d'une communauté où nous nous impliquons, où nous nous côtoyons, où nous apprenons aussi à nous supporter les uns des autres. Une pierre seule ne constitue pas un bâtiment. Mais à juste titre, tout ce que nous avons vu le mardi, c'est des pierres mises l'une à côté de l'autre qui forment une maison, qui forment une habitation. Alors pour former cette habitation, cette maison de Dieu, il devient impératif pour nous, l'ensemble des saints, de comprendre le lien, la nature du lien qui nous unit. Et c'est pour cela que Paul prie afin que l'ensemble des croyants, sur toute génération, soit à même de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour que Christ a manifesté. Ici, il me semble que nous touchons un peu du doigt, un peu à ce qu'est le projet de Dieu, même à ce qu'est peut-être l'être de Dieu. Nous touchons un peu du doigt, nous voyons un peu, peut-être imparfaitement, ce qu'est le cœur de Dieu. La parole nous dit que Dieu est amour, et que Christ est la manifestation ultime de cet amour. Lui qui était dans le sein du Père, c'est lui qui nous révèle cet amour. Et pour nous, il est, comme je le disais, capital de comprendre ce que ça veut dire. Car de la compréhension de ce que produit cet amour, notre amour propre, notre amour nous-mêmes, prend sa source là. C'est de la compréhension de cet amour que nous apprenons nous-mêmes à aimer les uns les autres. Et pour, je vais lire un extrait d'une citation de Rick Steadman, c'est une de ses prédications que nous pouvons retrouver dans le livret 4 de l'ITA, les attitudes de cœur, et qui propose, à mon sens, une analyse de cet amour et qui fait sens. Donc je vais lire un peu cet extrait de ce qu'il propose dans l'une de ses prédications. Il dit que les différentes références à cet amour renvoient à certains points que l'apôtre avait déjà énumérés un peu plus haut dans les chapitres précédents. Et il nous dit que la longueur est ce qu'on appelle l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Et là, on est au chapitre 1, verset 18. Cette espérance qui est née bien avant la fondation du monde, dans l'éternité passée, et qui s'étend sur tout ce qu'on peut mesurer en termes de temps jusqu'aux confins inaccessibles, infinis de l'éternité à venir. C'est la longueur et l'étendue du programme de Dieu. Nous sommes emportés dans le courant, dans l'entreprise immense, cosmique de Dieu, de réunir toutes choses en Christ. C'est à cette espérance que nous sommes appelés. La longueur, donc, renvoie à l'espérance à laquelle nous sommes appelés, une espérance qui est de toute éternité, et qui était de réunir le peuple de Dieu ensemble en Christ. La largeur, elle fait référence à ce qu'on appelle les richesses insondables de Christ. Et là, on le retrouve au chapitre 3. Et c'est cette richesse qu'on annonce que les Juifs et les païens, désormais, font partie de même peuple. Ils font partie de l'Église. Sans qu'on tienne compte des différences et sans qu'ils aient des divisions. Noirs, les blancs, les riches, les pauvres, les esclaves, les individus libres, les hommes, les femmes, peu importe, ils sont tous un. Et nous voyons que cette largeur nous parle de cette fraternité de l'humanité. La hauteur l'indique le lieu où nous sommes en Christ, ressuscité pour siéger ensemble avec lui dans le monde céleste. Et là, on le retrouve, chapitre 2, verset 6. Bien au-dessus des principautés et des puissances des autorités, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Là, il s'agit d'une position d'autorité pour le chrétien, une position qui nous confère le pouvoir d'être libérés de tout ce qui voudrait nous asservir, et pour vivre au-dessus de tout ce qui, dans notre vie, voudrait corrompre et démolir et détruire. Et finalement, on parle de la profondeur. Cette profondeur, on retrouve encore dans le chapitre 2, on parle de la mort dans laquelle nous vivions et à laquelle Dieu nous a arrachés par son appel. Dans cette mort, nous étions les victimes, non et non les vainqueurs, conformant notre manière de vivre à celle du monde. Je vais passer. Au fait, nous étions, comme il dit, nous étions des enfants de colère. Mais par la mort de Christ, nous avons été sortis de cette de cette corruption humaine. Et Dieu nous a appelés, transportés dans les hauteurs avec Christ. Voilà ce que l'auteur en tire des différentes dimensions de la mort de Christ. Ainsi, nous comprenons que la nature et la puissance que l'amour de Dieu, celui de Christ, qu'il a déployé pour que chacun soit sanctifié et qu'il fasse partie de l'Église, à cela, nous devons être sensibles. Nous devenons sensibles aux besoins des uns des autres. Paul nous dit que cet amour qu'on ne peut mesurer et qui dépasse toute connaissance, il nous dit que nous pouvons le connaître. Mais comment pouvons-nous connaître quelque chose qu'on ne peut mesurer et qui même qu'on ne peut connaître? Et par les différentes propositions qui ont été faites, nous voyons que cet amour s'est manifesté de manière claire. Il s'est manifesté dans un plan. Ce n'est pas un amour qui est resté abstrait. C'est un amour qui s'est mis en place dans un plan. Un plan qui avait trait de toute éternité, dans la pensée de Dieu. Et il semble que cet amour, le fait que lui-même cet amour soit devenu palpable et réel, nous pouvons le connaître en l'expérimentant. C'est en le vivant que nous pouvons connaître cet amour. Donc cet amour, on voit qu'il est si grand, si vaste à notre échelle. Cela nous dit aussi que de notre vivant, nous sommes appelés à grandir encore dans cette connaissance de l'amour. Ça ne sera jamais, jamais fini jusqu'à notre mort. Enfin, Dieu met en place son plan d'unité en œuvre dans l'Église par la manifestation de sa plénitude, de sa présence au sein de son Église. Nous venons voir que la compréhension de l'amour, de cet amour est essentielle. Il est d'autant plus important car c'est en le vivant, en vivant ce projet d'amour que Dieu a fait, qui nous permet d'être remplis, qui nous permet d'être remplis de la plénitude de Dieu. Le verset nous dit que c'est en lui que tout édifice, chapitre 2, s'élève, c'est en Christ que l'édifice s'élève bien ordonné pour former un peuple saint dans le Seigneur. C'est en Christ que nous avons été édifiés pour être, par le Saint-Esprit, une demeure où Dieu habite. La plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit est un état que l'enfant de Dieu doit continuellement chercher. Et c'est un ordre que nous voyons dans le chapitre 5, au verset 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cette idée de plénitude, nous voyons, se retrouve encore dans traverse même le chapitre des Éphésiens. On le retrouve à plusieurs chapitres. Chapitre 1, 10, 23, 3, 19, etc. Et donc le terme grec qui désigne la plénitude, il veut dire l'abondance, il veut dire la totalité, il veut dire l'accomplissement. Je veux dire que la plénitude de Dieu au sein de son peuple est l'un des critères de l'Église. Cette plénitude dans l'Église révèle également son importance. L'importance de l'Église. L'importance de l'Église dans le plan de Dieu. Car l'Église, elle a pour, comme nous l'avons dit, vu que l'Église, elle a pour vocation de faire connaître aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes et sur la terre aussi, la sagesse infinie variée de Dieu. Une Église où Dieu habite est un lieu où sa sagesse s'exprime et un lieu où sa puissance de transformation est à l'œuvre. C'est le lieu où l'évangile de Jésus-Christ est annoncé, que cette bonne nouvelle du salut bouleverse encore des vies. Car l'amour de Dieu est non seulement annoncé, il est pleinement annoncé, mais aussi vécu. La question pourrait être alors pour nous, qu'en est-il de notre assemblée de Créteil? Nous arrivons à la fin de cette année et si nous devions faire un bilan, Que serait-il? En tout cas, pour ma part, je vois que cette assemblée, le témoignage de cette assemblée semble être connu. Et je crois que Dieu lui-même dirige les pas de nombreuses personnes en son sein. Et nous le voyons avant le confinement, nous l'avons vu, les différents témoignages, les différentes personnes qui sont arrivées, disant « Nous cherchons une église et nous sommes arrivés là. » Et que ces personnes témoignent qu'elles ont été bénies. Et nous croyons qu'il n'y a pas de fruit du hasard, car l'Éternel prend soin de ceux et de ceux qu'il aime. Et c'est lui qui aussi dirige ses pas. Mais fort de ce constat, est-ce que nous devons nous reposer sur nos lauriers? Je crois que nous devons encore progresser. Comme le texte nous dit, rechercher, nous devons chercher sans cesse à être remplis du Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Cela fait partie de ce qu'on caractérise notre croissance, notre capacité à que Dieu soit parmi nous, sa présence soit effective et vécue parmi nous. Je crois que la situation qui est préoccupante dans le pays est un moyen entre les mains de Dieu pour que notre assemblée aussi de chrétiens puisse progresser dans son témoignage d'amour. Pour que notre assemblée de chrétiens puisse encore progresser dans le fait que sa foi soit solide, mais que son amour aussi grandisse et que cet amour soit manifeste. Que cet amour soit manifeste autour, dans ce lieu de localisation. Dieu nous appelle encore une fois à être, plus que jamais, je crois, sel et lumière dans cette société en perte de saveur. Donc, en somme, la prière de l'apôtre, je crois, est riche en enseignement. Elle exprime quelque part la dépendance de l'Église et l'action de Dieu en elle. L'Église est l'Église de Dieu. Elle lui appartient et elle dépend aussi de lui. Nous avons vu que le plan de Dieu, qui est de se former un peuple qui témoigne de sa sagesse infinie, est mis en œuvre par le Saint-Esprit. C'est lui qui fait naître la vie nouvelle. Et c'est également lui qui nous conduit afin de nous enraciner, de nous faire croître dans l'amour de Christ. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait habiter Christ dans nos cœurs par la foi. Son action en nous est de nous rendre capables de comprendre et de vivre les dimensions de l'amour de Christ qu'il a manifesté. Cet amour est le ciment qui nous unit. Ce ciment qui unit l'ensemble des enfants de Dieu. Nous avons vu que l'Église comprend et vit l'amour. Lorsque l'Église comprend et vit l'amour qui vient de Dieu, alors elle-même, elle est remplie de la présence du Seigneur. Par sa présence, en son sein, nous pouvons voir la restauration des vies brisées, le pardon des péchés, les réconciliations, l'amour, la manifestation de l'amour fraternel, les repentances, les conversions. Encore, nous avons eu la grâce de Dieu de voir deux jeunes hommes s'engager sur la voie de Dieu, en passant par les eaux du baptême. Donc, en d'autres termes, nous pouvons voir, lorsque toutes ces choses sont manifestes, que la vie de Dieu est pleine au sein de son Église. Mais ce texte aussi nous montre que le plan de Dieu s'accomplit au travers des prières. Le plan de Dieu est que le croyant, celui qui prie aussi, soit associé à ce plan de Dieu. L'apôtre Paul va prier en fonction de sa compréhension du plan de Dieu. Nous ne pouvons pas forcément connaître parfaitement le plan de Dieu. Mais Dieu, nous l'avons vu encore dimanche dernier, à travers le livre de l'Apocalypse, comment la prière des saints est importante. Elle fait partie du plan de Dieu. Donc la prière des saints aussi fait partie du plan de Dieu pour que l'Église croisse, pour que l'unité se fasse au sein du peuple de Dieu. L'apôtre a prié afin que les saints de toute génération soient à même de connaître l'inconnaissable et de mesurer ce qui ne peut être mesuré. Mais nous croyons que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vous invite à finir cette méditation par la lecture de la doxologie, c'est-à-dire cette prière qui a la gloire de Dieu, qui se trouve à la fin de cette prière, à partir du verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, et nous voulons dire à lui soit la gloire également dans l'Église de Créteil, en Jésus-Christ, pour toutes les générations qui sont aussi, veut nous succéder, et pour l'éternité. Amen. Mardi prochain, mardi qui arrive, nous allons continuer sur ce texte. Nous, comme les chrétiens de Béret, nous allons encore plonger nos yeux dans l'Écriture et chercher à comprendre encore d'autres applications valables pour nous dans nos vies. Et je veux prier pour terminer. Seigneur, merci encore de nous rappeler que ton plan, et comme nous l'avons vu tout au long de cette matinée, que ton plan est un plan d'amour, celui de nous réconcilier avec toi et de réconcilier les hommes les uns avec les autres. Tu nous appelles à comprendre cette dimension, à comprendre, à saisir là où nous étions, comment nous étions perdus, comment nous étions loin de toi, égarés loin de toi, et que ton amour, comme nous l'avons encore chanté, ne s'est pas arrêté aux difficultés, n'a pas regardé les hauteurs, n'a pas regardé les dimensions de notre faute, n'a pas regardé la dimension de notre perte, mais tu es venu jusqu'à nous. Cet amour t'a conduit à venir, à t'incarner sur cette terre et à marcher parmi les hommes et à manifester en Jésus-Christ l'amour parfait. Et Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides encore à vivre cet amour parfait. À vivre cet amour qui dépasse nos différences. À vivre cet amour qui dépasse, s'il te plaît, nos querelles, éternel, notre Dieu. Mais nous voulons aimer comme toi tu es. Alors, s'il te plaît, aide-nous encore à nous enraciner dans ta parole, à nous enraciner en Jésus-Christ. Et nous te prions afin que nos cœurs, nous puissions apprendre à aimer comme toi. Au nom de Jésus. Amen.